Philippe Joffard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG du groupe La Fuma. On va parler avec vous de votre actualité qui a été riche au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, avec à la fois des cessions confirmées, hein, puisque pour le chameau, effectivement, et puis peut-être des nouveaux actionnaires qui ne sont pas venus, un accord avec de nouveaux actionnaires qui n'est pas venu. Où en est aujourd'hui le groupe La Fuma, justement, en termes de stratégie? Il y avait à la fois des cessions d'actifs nécessaires, de votre point de vue, sur le plan stratégique?
Alors là, vous parlez de l'opération Le Chameau, de la cession de Le Chameau, et puis les rumeurs confirmées sur l'intérêt d'Iland. On va peut-être commencer par Iland. Ça a été une manifestation d'intérêt qui avait peut-être sa logique. D'abord, je vous rappelle que La Fuma est une société cotée non contrôlée. Donc forcément, des entreprises peuvent s'intéresser à nous. Puis si on regarde, le marché de l'outdoor est aujourd'hui tendanciellement très bien orienté, il est en progression, pour des tas de raisons, sport, nature, etc. Donc ça fonctionne bien dans tous les pays du monde. Deuxièmement, il y a eu beaucoup d'opérations dans notre secteur, Timberland, Volcom, Agloff, etc., sur des multiples d'EBITDA assez sympathiques d'ailleurs. Donc du coup, La Fuma est apparue plutôt accessible. Là-dessus, intérêt asiatique, parce qu'aujourd'hui, ils cherchent des marques et surtout des vraies marques. Alors là-dessus, il y a eu une rumeur. On a confirmé en effet qu'on était en discussion. On a mis fin aux rumeurs il y a maintenant à peu près 15 jours. Je serais tenté de dire c'est dans l'ordre des choses. C'est la rumeur qui n'est pas dans l'ordre des choses. Donc, je n'ai pas vocation à les commenter. Ce serait tenté plus que vous. Donc, ça a démarré, ça s'est arrêté. C'est seulement la preuve qu'il y a de l'intérêt sur le groupe.
Oui. Est-ce que ça peut être lié à des questions de prix? Parce que quand on regarde le cours de bourse de La Fuma, je suis remonté assez loin volontairement. Donc, on va dire presque avant le début de la crise de 2008. On voit qu'on est allé jusqu'à des 70 euros, par exemple. Et on regarde les cours de ces derniers jours, on est autour de 18 euros. Donc, même s'il y a eu une remontée, la remontée est longue.
Oui, la CAPI, néanmoins, est à mettre en parallèle parce qu'il y avait moins d'actions à l'époque. On a fait différentes opérations. Donc, ça n'a pas été. Je pense qu'il y a eu sans doute une question de prix. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, nous, surtout à l'époque, et c'est votre première question, on a été centré sur une opération de cession. Parce que des gens s'intéressent à nous, mais ce n'est pas nous qui les avons motivés dans cette affaire. Absolument. En revanche, on était sur une opération qui était une opération de cession de Le Chameau et qui, elle, a vraiment un caractère stratégique. L'autre, c'est de l'opportunisme et de l'opportunisme de leur côté et éventuellement d'une autre selon le moment. La démarche stratégique sur Le Chameau avait deux objectifs. Un objectif économique, un objectif stratégique. Le premier économique, c'était plutôt une bonne valorisation. Qui permettait d'accélérer le désendettement du groupe. On donnera en effet des ratios tout à fait favorables à la fin de l'exercice, à fin septembre. Et stratégique parce que nous avions vocation à nous recentrer sur ce que nous appelons l'outdoor sport. Sport deux fois, à la fois par les clients auxquels nous nous adressons, non pas que les chasseurs et les pêcheurs ne sont pas très sportifs, mais ils le sont clairement moins que nos randonneurs, nos trailers, nos skieurs, nos alpinistes, nos surfeurs, représentés par La Fuma, Millet, Eder, Oxbow. Donc nos pratiquants qui véritablement sont sportifs et sur lesquels nous entendions nous concentrer. Deuxièmement, nos clients, c'est-à-dire les quatre marques sont présentes dans les magasins de sport, ce qui n'était pas le cas ou très exceptionnellement de Le Chameau. Donc recentrage sur ce qu'on appelle l'outdoor sport. Donc vraiment une opération très stratégique.
Alors il y a aussi effectivement concernant Oxbow, le surf, ça a été le surf, il y a eu une belle période sur le surf et puis là c'est une période peut-être plus difficile. Qu'est-ce qui a changé sur ce segment-là, donc sur Oxbow? Est-ce que c'est une question de stratégie qui n'a pas été mise en place? Qu'est-ce qui pêche?
Alors, d'abord, tout le secteur du surf souffre, comme vous le savez, pour les autres marques. Oxbow n'échappe pas à la règle. Les raisons sont sans doute, il y a eu trop de facilité dans ce secteur. On a insuffisamment été pertinent en design et néanmoins en éléments techniques, parce que c'est un sport auquel il faut répondre. La facilité, c'est les problèmes, c'est les embêtements. Nous, on est en train de les résoudre. C'est-à-dire, on a engagé un PSE, un plan social chez Oxbow, portant sur environ 35 personnes, plus une réorganisation complète de la société avec une considérable évolution du management. Donc, je serais tenté de dire, Oxbow a vocation à rebondir, tout est en place aujourd'hui pour ça. Mais néanmoins, a une année l'année dernière difficile et traversera forcément sur 2012-2013 une année difficile. Mais nous avons d'autres activités qui se portent bien.
Avec aussi, je voyais sur les produits, typiquement réduction du nombre de produits, donc peut-être focalisation sur de nouveaux produits qui peuvent effectivement mieux marcher.
Oui, alors en général, d'ailleurs, dans le groupe, on essaye d'être le plus vigilant sur le nombre de références, c'est-à-dire le nombre de produits, le nombre de lignes de produits. On notera d'ailleurs que l'internationalisation du groupe fait qu'avant, on avait quand même des collections qui parfois répondaient à des marchés, mais là, le goût commence à se mondialiser et nous avons finalement moins de lignes tout en étant présents sur plus de marchés.
On parlait de l'Asie, des marchés asiatiques. Alors là, c'était le côté marque d'intérêt d'actionnaires, de nouveaux actionnaires potentiels. Les marchés aujourd'hui en croissance, clairement, quand on regarde ce qui se passe en France et votre activité sur les 9 mois en France, en Europe, on voit que ça reste assez difficile. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ces marchés asiatiques.
Alors d'abord, dans l'Europe, il y a quand même quelques marchés qui fonctionnent. Hein. Dans l'Europe, l'Allemagne, pour nous, a très bien marché l'année dernière et continue visiblement sur 2012-2013. Mais c'est vrai que nous avons comme gisement, entre autres, la Chine. On a un joint venture en Chine sur une marque. On entend développer d'autres marques dans d'autres partenariats. Le joint venture chinois avec LG a été assez consommateur en capitaux, puisque nous avons investi de l'ordre de 7 millions d'euros. Nous sommes en perte, bien évidemment, en équivalence, la perte de l'année dernière est relativement significative, mais dans le business plan. Donc nous tenons aujourd'hui parfaitement le business plan. Il faut analyser d'ailleurs la Chine aujourd'hui dans notre secteur comme une start-up. C'est-à-dire on investit, le BP a vocation à être rentable à partir du dernier trimestre 2013, du moins calendaire, pas de notre exercice, et à partir de 2014-2015, délivrer des résultats. C'est en fait, c'est un de nos principaux gisements. Mais je dirais que nous avons aussi des pôles qui fonctionnent et nous avons aussi nos Chines intérieures, si je puis dire, avec Internet qui se développe bien chez nous.
Justement, du côté aujourd'hui du profil du groupe, hein, avec ces évolutions que vous avez rappelées, avec la cession de Le Chameau, etc., est-ce qu'aujourd'hui le groupe donc, se repositionne et aura une base plus solide une fois Augsbourg, je dirais, remis sur les rails?
Alors d'abord, plus solide en termes de... Plus solide globalement, puisqu'on a quand même considérablement réduit notre endettement. On va avoir un gearing historiquement sans doute le plus bas. Donc, sécurisation financière, consolidation autour des 4 marques principales et 3 pôles clés, et en privilégiant nos axes de développement. Pas tellement en termes de croissance en Europe, hein, on réduit plutôt la voilure, on fait le gros dos, croissance en Asie, amélioration de la marge et réduction des frais. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes confiants.
Justement, peut-être le mot de la fin. Alors, on a vu, bien sûr, sur les marchés, quand il y a des spéculations, des rumeurs, on voit très bien la courbe, hein, la FUMA, du titre la FUMA, effectivement, cette montagne. Et puis, les investisseurs déçus, forcément, après, qui ont spéculé sur une vente. Ces investisseurs qui seraient venus, qui seraient repartis, le futur de la FUMA, c'est-à-dire à moyen terme, les perspectives sont toujours là de croissance?
Il y a deux futurs, si je puis dire. Il y en a un qui est celui de la logique du groupe sur un marché qui est tendanciellement très bien orienté, le marché de l'outdoor, 4 marques qui sont fortes, qui aujourd'hui sont recentrées sur une gamme produits parfaitement complémentaire. Le groupe en tant que tel a ses propres perspectives de croissance et de rentabilité. Puis deuxièmement, l'intérêt qui a été montré, qui n'avait pas été sollicité du tout, est un intérêt qui reste. Hein. Donc, sans insister sur le sujet, je rappelle que la FUMA est une société non contrôlée. Donc, le sujet de l'intérêt de la spéculation est un sujet qui reste. À nous de savoir le manager, le gérer le plus intelligemment.
Ben, on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir fait le point avec nous, Philippe Joffard. Je rappelle que vous êtes donc le PDG du groupe La Fuma.
Merci de votre accueil.